Vous écoutez
RMC.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avants français ressortent le grand jeu. Dwis en tête. Dwis, c'est le Pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
C'est demain l'anniversaire. 5 juin 1983. Yannick Noah remporte Roland Garros.
En ce 5 juin 1983, alors que Laurent Fignon s'apprête à prendre le départ et à remporter son premier Tour de France, à l'heure où Alain Prost décroche Grand Prix sur Grand Prix en Formule 1, sur les cours de Roland-Garros, les spectateurs français n'ont Dieu que pour un jeune athlète de 23 ans qui dans quelques heures disputera la finale des internationaux de France. Oui, en ce milieu des années 80, la France sportive vit son âge d'or et ses champions font enfin vibrer un peuple trop longtemps frustré par des résultats décevant. Et c'est évidemment le cas en tennis, où depuis la fin de la guerre, seul un Français, Marcel Bernard, en 46, a réussi à s'imposer sur la terre ocre de la Porte d'Auteuil. Alors, en cette belle journée de fin de printemps parisien, tout le monde se prend à rêver d'un succès de Yannick Noah. Noah, devenu en quelques années l'idole des foules, sa personnalité et son physique avenant, ils sont évidemment pour beaucoup, mais ce que les fans de tennis aiment le plus en Yannick, c'est son jeu spectaculaire, ses attaques tranchantes et sa rage de vaincre. Un garçon qui, s'il est le fils d'un ancien footballeur professionnel, n'avait que très peu de chances de devenir tennisman de haut niveau en grandissant à Yaoundé, la capitale du Cameroun, le pays de Zachary, son papa footeux. Mais en 71, une rencontre va bouleverser sa vie. Yannick a 11 ans, il possède déjà un niveau remarquable, raquette en main. Et lorsque Arthur Ashe, le champion noir américain, vainqueur de l'US Open 3 ans plus tôt, débarque au Cameroun, c'est la révélation.
C'est là que j'ai vu Arthur Ashe. Sa tenue, elle était blanche. Et c'est quelque chose qui m'avait surpris. Je dis, waouh, un black avec une tenue bien blanche. De la seconde où je l'ai vu, c'est devenu mon héros, quoi. Depuis un jour, il y avait des affiches oranges et que c'était Arthur Ashe qui venait en tournée africaine. J'arrivais pas à le croire. C'est pas possible qu'il vienne dans notre petit club pourri.
Et le rêve ne va pas s'arrêter là, non. Yannick va même avoir l'occasion d'échanger quelques balles avec son héros. Zachary Noah raconte la suite dans le documentaire Noah, le sens de la gagne de Delphine Jodot et Vladimir de Fontenay, diffusé sur Amazon Prime.
Arthur Ashe, bien sûr, la couleur aidant, a voulu jouer avec le petit nègre qui était là à côté. Yannick, qui était déjà excité, je montrais à Arthur Ashe ce que je vaux. Il était déjà gonflé, lui. Il voulait battre tout le monde.
Et en seulement quelques balles, le jeune franco-camerounais épate le champion, au point que celui-ci décide de lui offrir sa raquette avant de prendre son téléphone et d'appeler la Fédération française de tennis.
So I called the French tennis officials and said,
j'ai appelé la Fédération française et j'ai dit, Yannick a du talent, mais il faut qu'il quitte le Cameroun.
Et sur les conseils du champion américain, la Fédération française de tennis invite Noah à venir se perfectionner en France. 1973, il a 14 ans, Yannick Noah entre à la section sport-études de Nice que dirige Patrice Bost.
Le rêve de Noah prend forme sur les cours du Parc Impérial à Nice, où il intègre l'internat du sport-études. Début compliqué pour l'adolescent, arraché à sa famille et surnommé Bamboula par ses camarades.
Mes parents étaient loin, je voyais pas ma mère ni mon père. J'avais aucun lien, aucune protection à ce niveau-là. J'ai chialé tout le temps. Je me chialais en réveillant, je chialais en m'endormant, je chialais dans la nuit. Donc deux fois poil devant tout le monde, t'es humilié, quoi. Mais tu peux rien faire, tu peux rien faire, t'es trop petit.
Alors, pour oublier brimades et racisme ordinaire, Yannick met les bouchées doubles et s'entraîne plus que les autres. Un entraînement forcené qui va vite porter ses fruits. 3 ans après son arrivée en France, il est déjà l'un des plus grands espoirs du tennis français, même si les journalistes de l'époque n'ont pas encore bien retenu le prénom du prodige.
Morphologie longiligne, gestes élégants et précis, souplesse féline, c'est Patrick Noah, 15 ans, le classé le plus jeune de France, à l'un des grades les plus élevés de deuxième série.
Patrick, Yannick, après tout, qu'importe le prénom, l'ambition, elle, est claire et nette.
Gagner des matchs, être une idole, c'est pas négligeable. Enfin, gagner de l'argent, gagner bien sa vie, et puis arriver à mon but, quoi. C'est-à-dire être au moins dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux.
Noir est vos futurs. À ce central de Roland-Garros, où un jour peut-être, devant des milliers de spectateurs, il gagnera la balle de match de la finale.
Le tournoi parisien que Yannick découvre pour la première fois en 1977 et dont il disputera les 13 éditions suivantes à la file. Mais avant de briller sur la terre battue, c'est à Wimbledon que Yannick connaît son premier grand frisson de jeune professionnel en 1978, lorsqu'Arthur Ashe décide de faire de Noah son partenaire de double, 7 ans seulement après l'avoir découvert sur les cours d'un petit club de Yaoundé.
On joue sur centrale et je me mets à trembler. Et puis je demande à Arthur, Arthur, is possible not play? I'm too nervous. Et puis il tape sur les poings comme ça, it's gonna be alright, son, it's gonna be okay. Et quand on gagne, je m'approche de lui comme ça, je vais pour l'embrasser, je sais pas moi, franchement, tout aurait pu s'arrêter à ce moment-là, c'était bon quoi.
Mais ça ne va pas s'arrêter de sitôt, car Yannick progresse, remporte ses premiers titres et commence à faire vibrer le central parisien en 1980. À 20 ans, il atteint les 8e de finale du tournoi, opposé à l'américain Jimmy Connors.
8e de finale au meilleur des 5 membres, Jimmy Connors, États-Unis. Yannick Noah, France.
Le central frémit mais déchante 2 sets plus tard lorsque Yannick se blesse et doit abandonner.
Il est placé sur le dos du ballon, il revient bien. Là encore, il retourne comme il peut, il va chercher cette balle qui est trop loin.
L'année suivante, il franchit un tour supplémentaire après avoir battu en 8e de finale l'Argentin Guillermo Vilas, ancien vainqueur du tournoi parisien.
Jeu 7 et match, Yannick Noah exulte. Il remporte ici la plus belle partie de sa jeune carrière aux dépens de l'Argentin Guillermo Vilas, numéro 6 mondial.
S'il est battu au tour suivant par Victor Pecci, Noah est entré dans les cœurs des Français. Tout le monde désormais adore ce showman, beau comme un dieu et plein aux as, qui fait tourner la tête de ses admiratrices et des jeunes joueurs français, dont Guy Forget.
Il fréquente des très jolies jeunes filles, mannequins, il a toujours le dernier petit blouson qui va bien, il est complètement dans la tendance, donc c'est presque pour nous une rockstar.
En 1982, la star du tennis français entre pour la première fois dans le top 10 mondial et atteint à nouveau les quarts de finale à Roland-Garros avant de disputer la finale de la Coupe Davis face aux États-Unis de John McEnroe et d'Arthur Ashe, oui, le capitaine américain qui pour la première fois se retrouve dans le camp d'en face. Un crève-cœur pour Yannick.
J'étais sur McEnroe, mais j'étais pas du tout sur Arthur Ashe, quoi. Et là, il était capitaine, quoi. Ça m'a brisé le cœur. Arthur, c'est moi, quoi. Dans l'esprit du cosmos, Arthur, il me coach. Il coach pas McEnroe.
Les États-Unis s'imposeront 4-1, mais les Français de Noah, ce jour-là, prennent date pour plus tard. Yannick approche désormais des 23 ans. Il n'a jamais joué aussi bien, mais il lui manque encore ce succès de référence. Alors, pour obtenir le Graal et une victoire à Roland-Garros que la France attend depuis 37 ans, Noah part s'entraîner avec Patrice Agelauer, son coach.
Je lui ai dit, écoute Yann, tu veux gagner Roland ? C'est tous les jours, bosser, que ce soit sur le physique, sur les étirements, c'est vraiment, vraiment faire ça. On s'est isolé de tout. On allait s'entraîner dans un petit club où personne ne savait qu'on était là. Et on a pu bosser tous les jours à fond. Là, il fallait plutôt le freiner que de l'encourager à faire des efforts.
Le 23 mai, sur le central, Yannick entame son tournoi, sûr de lui, de ses forces et de son mental. Les 4 premiers tours sont une formalité pour l'ouragan Noah, qui ne laisse pas un seul set à ses adversaires. Mais en quart, l'affaire va forcément se corser. Lorsqu'il croise la route du numéro 2 mondial, le tchèque Ivan Lendl, le Buster Keaton des cours, aussi triste et détesté que Noah est joyeux et adulé.
Lendl, c'était personnel. Lui, c'était droit, sérieux, très professionnel. Et moi, j'avais pas envie d'être ce mec-là. Quand je perdais contre lui, j'avais les boules. Parce que c'était pas juste moi, c'était tout ce que je représentais, tu vois.
Noah entame le match tambour battant, remporte les 2 premiers sets et s'octroie même 2 balles de match avant de voir son adversaire revenir dans la partie. Mais le doute ne durera pas bien longtemps. Dans le 4e set, Noah retrouve jeu et confiance et expédie Lendl 6-0. Le voici en demi-finale.
7-6, 6-2, 5-7, 6-0, le compte est bon, Noah est heureux, nous aussi. Il rencontrera vendredi en demi-finale Roger Vasselin. Il faut remonter à 1946 pour voir 2 Français en demi-finale de Roland-Garros. Champagne pour le tennis français.
Et malgré l'amitié qui le lie à son compatriote, Yannick va se montrer intraitable, ne lui laissant que trois malheureux petits jeux. Pour la première et dernière fois de sa carrière, il est en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Mais ce dimanche, sur un central tout émoustillé, c'est du sérieux qui attend Noah. L'école suédoise, représentée par celui qui a succédé à Björn Borg. Il est le vainqueur sortant de Roland-Garros et par là même le favori de cette finale, son nom, Mats Wilander. Mais de cela, Noah n'en a cure. Le Français est en mission. Ce match ne peut lui échapper.
Au service, Wilander.
Mon sentiment, c'est que je ne sors pas vivant si je gagne pas. Je peux crever. Butez-moi ou je me suicide. Et je gagne ce putain de match.
Première manche, Noah, en 36 minutes sur le score de 6 jeux à 2. Un Noah qui joue remarquablement. Oui. En 1h24,
2-7-0
pour Yannick Noah. Tonique à la volée. Et bien non, 6 jeux partout, tie break. Son père, Zachary Noah, s'est précipité sur le central pour embrasser son fils. Maman d'intense émotion, maman fantastique, le rêve de Noah réalisé. L'ovation de tout un stade. Le salut aux amis maintenant. En larmes dans la tribune présidentielle.
J'espère que bon, derrière ça suivra, que ça donnera de l'ambition à d'autres jeunes, parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on perd en finale ou qu'on fait de bons résultats de temps en temps, on peut également gagner. Et je pense qu'on l'a prouvé tous ensemble aujourd'hui.
Un espoir resté sans lendemain. Yannick ne connaîtra plus jamais la liesse d'une finale sur le central et seul son copain Henri Lecomte parviendra à atteindre ce stade de la compétition 5 ans plus tard face au même adversaire mais pas avec le même résultat. Depuis, la France patiente, en rage, rêve, se désespère mais n'a toujours pas trouvé de successeur au beau gosse de Yaoundé, fabricant exclusif d'émotions, sorcier du sourire et de la victoire.
Tu es venu ce matin, le Noah de fer africain.
C'était il y a 40 ans, le sacre de Yannick Noah raconté par Christophe Cessieux. Qu'avez-vous envie de retenir de cette histoire mémorable, évidemment. On s'en souvient, même s'il y a quelques anecdotes qui nous avaient peut-être échappé. Marie Martineau.
Alors moi, je suis née en 84 et je peux le dire, je n'ai pas grandi dans une famille très tournée vers le sport, de base. On parlait du boulot, mais pas trop du sport. Et pourtant, ce mec-là fait partie de ma jeunesse, de mon enfance. Après cette victoire-là à Roland-Garros, je reste très admirative du parcours, du bonhomme. J'aime son franc-parler, évidemment. Son naturel, comme ça, je trouve qu'il fait du bien, il est inspirant ce mec-là, voilà. Et donc j'aime la destinée et je pense qu'il fait partie peut-être que quand je serai vraiment vieille, tu vois, et si on me dit si tu devais citer 10 personnes qui t'ont marqué dans ta vie, je pense que Yannick Noah ferait partie de ces 10 personnes.
Ok.
Il a été longtemps la personnalité préférée des Français. Hein.
Pas très étonnant, même, je trouve, ouais, au final.
Et après, il y a eu Jean-Jacques Goldman et là, c'était foutu.
Non, mais Jean-Jacques Goldman a écrit les chansons pour Yannick Noah d'ailleurs. Moi, je la connais par cœur, cette histoire. Pas parce que je l'ai vécue, mais parce qu'elle m'a été racontée plein de fois. J'ai juste une petite anecdote que tu ne peux pas connaître, forcément. C'est que moi, j'ai eu la chance de l'avoir en tant que capitaine de Fed Cup. Et il me désigne pour jouer le simple, alors que j'étais simple remplaçante, puisque Marie Pierce avait refusé la sélection. Et je, quand il m'annonce que je vais jouer, je dis ah bah non, c'était pas prévu. Puis je m'en vais. Je dis non, tu m'avais juste appelé pour être remplaçante. J'ai pas prévu de jouer demain. Je vais pas y aller. Et donc je lui dis mais je vais pas pouvoir y aller. Et il me raconte une anecdote sur ce match-là. Il me dit tu sais le jour de ma finale je l'avais perdu. Dans la nuit il l'a joué le match.
Il l'a raconté.
Il l'a raconté. Il a perdu le match et quand il s'est levé je l'ai perdu une fois. Pas, perdu, pas deux fois. Et en fait, c'est
il t'a marabouté au final.
Bah, non, mais en tout cas, il m'a montré que la force mentale pouvait faire inverser les choses, en fait. Et il a souvent raconté ça, et ça m'a aidé effectivement à rentrer sur le court. J'ai eu de la chance de l'avoir en tant que capitaine de Fed Cup pour jouer les deux simples.
Mais il est connu pour ça aussi, Yannick Noah.
Bah, il a fait des miracles en Coupe Davis et en Fed Cup parce qu'il a réussi à transcender des joueurs qui étaient sur le circuit, mais pas des joueurs qui gagnaient des tournois du Grand Chelem. Mais pourtant, avec eux, les équipes de France ont gagné.
C'est pas juste quelque chose comme ça jeté en l'air, toi qui l'as côtoyé, coaché. Tu sens la puissance d'un homme, chose de différent.
Il a quelque chose de mystique. Il dégage quelque chose de mystique. Donc en fait, quand il t'embarque dans ces inspirations mystiques, tu suis parce que c'est un leader, parce que c'est un manager, parce que lui a gagné. Lui a gagné. Donc,
quand tu passes un moment avec ce type-là, tu es fasciné par le mec parce que sa façon de raconter les histoires, il dégage de la sympathie. T'as envie d'être copain avec lui, boire des coups avec lui. Et d'ailleurs, tu peux en boire des coups avec lui.
Oui, il faut tenir.
Il faut tenir. Mais franchement, ce mec-là, t'es face à lui, t'as la banane.
Il a inspiré. Le PSG est allé le chercher aussi pour essayer de motiver ses équipes pour on disait quoi, la C4 à l'époque, C3.
Non, c'était la C2,
la C2.
La Coupe des Coupes.
Donc, il a ce pouvoir de transcender les gens, de transcender les sportifs. Il a ce pouvoir-là.
J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, vous parlez de moi. C'est quand même assez incroyable. Alors, on parle de
mais pas loin.
Oui, d'accord.
Mais pas loin. T'es bien en calme.
T'es vraiment sympa.
Juste que tu fasses une carrière dans la chanson derrière, mais autrement, c'est un peu ça.
Oh, ça peut se décider.
Dans la blague, tu peux.
Ouais.